chers auditeurs, au micro Paul Ouzi-Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne rentrée après des vacances réussies, du moins je l'espère, car la canicule n'a épargné personne. Nous revenons à notre vie habituelle alors que le paysage géopolitique est en train de se modifier autour de nous. La guerre que la Russie a déclarée brutalement et cyniquement à l'Ukraine est à l'origine de ces modifications. Mais en Israël et au Moyen-Orient, la question qui fait peur à tous demeure l'affaire du nucléaire militaire iranien. Pour Israël et les États arabes sunnites, cela demeure le danger primordial. Cette menace semblait avoir été endiguée par un premier traité signé en 2015 entre les ayatollahs de la République islamique, les États-Unis et plusieurs grands pays dont la France et l'Allemagne. Ce premier traité a été annulé par Donald Trump en 2018 à la grande satisfaction de Netanyahou, alors Premier ministre, qui le combattait énergiquement. Aujourd'hui, on s'attend à ce que dans les jours qui viennent, un nouvel accord soit signé entre l'Iran, les États-Unis et d'autres gouvernements du monde pour contrôler le développement de la bombe iranienne en échange de la levée des lourdes sanctions qui visent ce pays. Pour comprendre les enjeux de ce nouvel accord, nous allons demander à Marc Lefebvre de nous informer et de nous expliquer. Est-il bon pour la sécurité d'Israël et la région ? Est-il une garantie pour la paix ? Marc Lefebvre est physicien, diplômé du Technion de Haïfa. C'est un expert en sécurité nucléaire qui a travaillé dans ce domaine en France et en Israël. Bonjour Marc Lefebvre.
Bonjour.
Alors Marc, l'ancien accord ayant été enterré par Donald Trump, pouvez-vous nous dire ce que prévoit Joe Biden dans ce nouvel accord destiné à contrôler le nucléaire iranien? Le futur traité est-il très différent de l'ancien, Marc,
si vous avez des infos? Premièrement, Joe Biden n'est pas tout seul, puisque toutes les puissances qui étaient signataires de l'accord de 2015 sont associées à ces négociations. Il faut noter que ces négociations sont discrètes, qui est une condition déjà nécessaire pour leur réussite éventuelle, parce que toutes les négociations qui se font sous les projecteurs des médias, en général, sont soumises à des surenchères. Donc, quand ces renégociations ont démarré il y a quelques mois, on ne leur donnait pas beaucoup de chance. Elles se sont continuées dans la discrétion et elles ont apparemment avancé, mais il y a encore des points d'achoppement. Quand on retrace l'histoire de toutes les négociations qu'il y a eu entre l'Iran et les puissances extérieures depuis 2003, il y a eu quand même beaucoup de tentatives, beaucoup de pas en avant, de pas en arrière. Donc, on n'est pas à l'abri d'un échec supplémentaire. Pour que nos auditeurs comprennent bien les grands termes de l'accord de 2015 qu'il s'agit de remettre en exercice, c'est limiter les processus d'enrichissement d'uranium pour que les Iraniens ne soient autorisés à enrichir qu'à hauteur de 3,5% d'uranium, donc pour fabriquer des combustibles pour les centrales nucléaires civiles, en aucun cas pour que cet uranium enrichi puisse servir pour les applications militaires.
Vous faites toujours la différence, je vous ai déjà entendu, mais vous faites toujours la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, parce que souvent les gens...
Une centrale nucléaire, comme les centrales nucléaires d'EDF en France, ou au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, ou même la centrale de Bouchehr en Iran, ne sont pas des centrales qui permettent ensuite de détourner leur exploitation pour faire une bombe nucléaire. D'ailleurs, je vous corrigerai tout à l'heure dans votre introduction, vous avez parlé du développement de la bombe nucléaire iranienne. Il s'agit pour le moment du développement du programme nucléaire iranien.
D'accord.
Parce que c'est important quand même de le dire. Les autorités de renseignement américaines, depuis 2003, et les enquêtes supplémentaires qui ont eu lieu faites par l'AIEA jusqu'en 2007, ont montré que depuis 2007, il n'y a pas officiellement de programme militaire iranien. Il n'y a plus, les Iraniens ont arrêté officiellement en 2005 tout programme militaire. qu'est-ce qui se passe? C'est que certains responsables de ces programmes sont restés en place dans des organismes plus ou moins dilués, plus ou moins discrets. Donc les Iraniens ont toujours la possibilité de redémarrer ce programme militaire. Mais actuellement, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est limiter les programmes d'enrichissement par centrifugation, selon les termes de l'accord de 2015, et aussi, et ça on n'en parle jamais, faire une reconception générale du réacteur de Arak, qui est un réacteur à uranium naturel et à eau lourde, qui lui, potentiellement, est beaucoup plus porteur de risques de développement de matériaux nécessaires à une bombe, en particulier, là, en l'occurrence, le plutonium. Il faut que les auditeurs comprennent que toutes ces histoires de centrifuge, de centrifugation, d'enrichissement, on pourrait quand même les regarder un peu comme un leurre de la part des Iraniens. C'est-à-dire qu'on agite ce chiffon rouge qui permet, par ailleurs, discrètement, de de consommer du combustible dans ce réacteur d'Arak, de le retraiter discrètement pour avoir du plutonium. Le plutonium, c'est beaucoup plus pratique pour faire une bombe que d'uranium. D'accord. Il faut 15 kilos de plutonium pour faire une bombe, il en faut 35 d'uranium pour faire une bombe. Et toutes les bombes miniaturisées qu'on met sur des missiles sont des bombes au plutonium, pas des bombes à l'uranium. Donc, le régime iranien amuse un peu la galerie avec ça. Et donc, tout accord sérieux doit d'abord et avant tout adresser le futur du réacteur d'Arak. C'est ça qui est important. Maintenant, quels sont les points de divergence actuels qui restent? Les points de divergence, c'est, de la part des Iraniens, bien évidemment, comment et à quelles conditions on lève les sanctions, quel est le processus de levée progressive des sanctions en fonction de l'avancement et du respect par les Iraniens de l'accord, et du point de vue occidental, ce sont les conditions d'inspection. L'Iran a signé non seulement le TNP, le traité de non-prolifération, mais a signé aussi le protocole additionnel du TNP. Maintenant, le protocole additionnel du TNP, qui définit les conditions dans lesquelles ces inspections se font, sont très strictes. C'est-à-dire que l'AIEA a le droit de venir sans avis préalable, et quelle que soit la raison. Ils n'ont pas à se justifier sur ce qu'ils veulent visiter, et quand ils veulent le visiter, et comment ils veulent le visiter. C'est les points les plus délicats sur cet accord pour être sûr que les Iraniens ne vont pas mettre des obstacles et ne vont pas faire en sorte que les visites soient des visites fantômes ou des visites factices. Il y a aussi un autre point qui est lié aux applications militaires, c'est que sur un site comme le site de Parchin, qui est un site militaire, le protocole additionnel autorise l'AIEA à le visiter pour inspecter les matériaux nucléaires.
Quand vous dites protocole additionnel, vous voulez dire le nouvel accord?
Le protocole additionnel du traité de non-prolifération.
D'accord.
Tous les États signataires du traité de non-prolifération adhèrent et ont signé à ce qu'on appelle le protocole additionnel qui définit les conditions dans lesquelles l'AIEA fait ses inspections.
D'accord. Donc c'est un truc plus général.
C'est un truc beaucoup plus général. C'est pas lié spécifiquement à cet accord avec l'Iran. Alors, en plus de ça, donc, les Iraniens devront accepter que le protocole additionnel soit appliqué dans toutes ces clauses pour que les inspections soient véritablement crédibles. Et en plus de ça, il faudra aussi certainement, c'est ça aussi l'objectif des Américains et des Alliés, c'est d'élargir l'accord de 2015 pour inclure dans cet accord toute inspection aussi des applications militaires, ce qui était exclu des accords de 2015.
D'accord.
Donc c'est là où il y a les points d'échappement, et c'est là où ça peut ne pas fonctionner. De toute façon, un accord n'est jamais un accord parfait, et pour répondre à votre question, un accord, c'est pas un côté qui se soumet complètement aux conditions de l'autre, il faut toujours arriver à des compromis. Et en hébreu, on appelle ça shikul dat, je ne sais pas comment on dit en français.
On soupèse la croyance.
Oui, l'estimation fait qu'il vaut mieux un accord imparfait que pas d'accord.
D'accord, mais Marc Lefebvre,
oui.
Pourtant les Israéliens critiquent sévèrement le nouvel accord.
Certains Israéliens, pas
oui,
tous.
Oui, bah écoutez, il y en a quand même pas mal, parce que le premier ministre en exercice, Yair Lapid,
oui,
il l'a critiqué. L'ancien Likoud, évidemment, Benjamin Netanyahu, il est contre. L'actuel directeur du Mossad, il est contre aussi. L'ancien directeur du Mossad, il est contre aussi. Alors, selon vous, ils ont tort de se méfier. Vous avez l'air de dire qu'il y a des garanties.
Je ne dis pas qu'on a tort de se méfier. Il faut se méfier, mais il faut avancer. Parce que quelle est l'alternative ? Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à un accord où il faudra être extrêmement vigilant à son application. Mais il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative militaire. La seule alternative, c'est de laisser les Iraniens faire ce qu'ils veulent. Ce qui est actuellement la situation. C'est ça qu'on veut ? Non. Donc, il vaut mieux faire en sorte que les Iraniens rentrent dans un cadre contrôlé par toutes les puissances. Il faut savoir, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle partout de conflits réels avec la Russie, de conflits potentiels entre les États-Unis et la Chine, et tous ces pays sont d'accord entre eux pour qu'il y ait un accord qui encadre le développement nucléaire de l'Iran.
Oui, ils sont contre la prolifération.
On est dans une situation géopolitique où les grandes puissances qui sont en conflit sur d'autres terrains, ce point-là, sont d'accord pour encadrer l'Iran. Ça veut dire que si cet accord se met en place, l'Iran sera complètement encadré sous la contrainte et le contrôle de toutes les grandes puissances qui, par ailleurs, ont des zones de conflit par ailleurs. Donc ça veut dire que le gouvernement iranien sera effectivement sous surveillance. Parce que, d'un autre côté, c'est aussi l'intérêt, peut-être, il faut réfléchir à ça, pourquoi les Iraniens négocient ? Pourquoi les Iraniens accepteraient, à leurs conditions, ou selon les conditions, etc., etc., pourquoi ils accepteraient un accord ? Parce qu'ils ont intérêt à une levée de l'embargo, parce qu'il y a certainement des forces économiques et politiques à l'intérieur de l'Iran qui veulent que l'Iran soit désenclavé, qui jouent le jeu de l'ouverture de la société iranienne, qui jouent le jeu d'un retour à une certaine prospérité économique pour que l'Iran ne soit pas entre les mains de ses forces les plus extrémistes.
Les plus radicales.
Les plus radicales. En plus de ça, l'Iran, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'à l'heure actuelle, il y a des remous sur les marchés de l'énergie et que offrir du pétrole au monde qui va en avoir de moins en moins venant de la Russie, c'est aussi une carte que les Iraniens veulent avancer et c'est une carte que les puissances occidentales ont intérêt à faire jouer. Donc il y a une balance géopolitique extrêmement complexe et extrêmement complète qu'il faut gérer.
Alors moi, j'ai deux questions à vous poser par rapport à ça. Une première question, vous aviez l'air de dire qu'en fin de compte, il y a un programme nucléaire iranien, mais qu'il est relativement enkysté. Hein?
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, j'ai entendu l'autre fois le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, et puis il y a aussi des sénateurs républicains et démocrates américains qui estiment, c'est eux qui le disent, qu'il est trop tard pour empêcher les Iraniens d'obtenir la bombe nucléaire. Qu'ils sont à quelques mois de l'avoir et que le nouveau traité n'empêchera rien du tout.
Écoutez,
est-ce que vous pensez qu'il est trop tard ? J'ai
sous les yeux un livre qui a été publié récemment par un ancien ambassadeur de France en Iran et qui décrit par le menu toutes les tentatives de négociation qui ont eu lieu dans les 20 dernières années. Les déclarations comme quoi l'Iran est à deux pas d'avoir le nucléaire ou d'avoir la bombe, ça fait des années qu'on nous le dit. Et ça ne s'est pas fait.
C'est vrai.
Ça fait des années qu'on nous dit ça. Et vous avez des républicains et des démocrates qui sont devant les midterms, qui vont avoir les élections du midterm en novembre. Vous avez un premier ministre, Yair Lapid, qui est en campagne électorale. Quel est l'homme politique aujourd'hui, compte tenu de l'atmosphère générale par rapport à cette menace iranienne, qui aura le courage devant ses électeurs potentiels de dire « il vaut mieux un accord que pas d'accord ». Le seul qui peut le faire, c'est Macron qui ne se représente pas et Joe Biden dont on sait qu'il ne se représentera pas non plus. Sinon, les hommes politiques qui sont sous l'épée de Damoclès d'élection, faut pas attendre d'eux des déclarations courageuses. En ce qui concerne Netanyahou, je veux dire, moi ça me, on sait même pas que ça me fait rire, ça me désole un peu. Netanyahou traiter quelqu'un de menteur, l'arroseur arrosé. Je veux dire, il n'y a pas un politicien qui a montré sa capacité à mentir plus que lui, donc franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, je pense que les Iraniens, une grande partie de la société iranienne et du système politique joue sa survie sur cette question du nucléaire avec une stratégie qui consiste à rester toujours ce qu'on appelle être un état seuil. c'est-à-dire un État qui a le potentiel d'avoir une bombe nucléaire, mais qui n'y arrive, mais qui décide de ne pas aller jusqu'au bout.
Et qui fait chantage de ça.
Bon, quelque part, la Corée du Nord a franchi le seuil, mais personne ne pense que la Corée du Nord va attaquer nucléairement le Japon ou les États-Unis. C'est une garantie pour eux que leur régime dictatorial reste en place. Donc pour les Iraniens, c'est pareil. Ces centrifugeuses, l'enrichissement, tout ça, c'est simplement une garantie pour que leur régime reste en place. C'est tout.
D'accord. Alors, vous parliez de... Il nous reste encore 5 minutes, là, oui. Donc on va continuer. Vous parliez de modifications géostratégiques à cause de la guerre en Ukraine, le pétrole, oui. Le gaz, etc. et tout. Mais il y a une coopération assez importante entre la République islamique d'Iran et même une coopération militaire importante, puisqu'ils leur vendent des drones en ce moment, dans le cadre de la guerre que Poutine mène contre l'Ukraine. Et puis on sait que, que la Russie est membre du Conseil de sécurité, que c'est une puissance nucléaire, etc. etc. Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans... Ça peut faire capoter l'accord que proposent les Américains et les autres pays du monde pour encadrer le programme nucléaire.
Je vous répondrai indirectement. Regardez les nouvelles toutes les semaines. La façon dont les positions du Hezbollah pro-iranien ou des forces iraniennes qui sont basées en Syrie sont bombardées par Tsahal avec l'assentiment des Russes.
Oui, ils ont enlevé leurs fusées.
Oui, vous savez, chacun a ses intérêts à long terme et ses intérêts à court terme. Les intérêts à long terme de la Russie sont certainement aussi de limiter, de toute façon, la puissance iranienne et l'emprise iranienne sur la région. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des accords ponctuels sur certains points, mais je ne pense pas qu'il faut y voir plus que ça. Si la Russie, dans le cadre de l'accord de 2015, la Russie était d'accord pour retraiter le combustible usé du programme nucléaire iranien, pour empêcher justement les Iraniens de retraiter ce combustible et en extraire du plutonium. Donc ils sont partie prenante dans cet accord.
D'accord. Alors si je comprends bien, pour conclure, parce que le temps passe très vite, vous pensez qu'il n'y aura pas de bombardement israélien des centrales. De toute façon, on ne sait même pas si c'est vraiment possible de bombarder les centrales.
Les Américains ont refusé de donner aux Israéliens les bombes à forte pénétration pour bombarder le site de Fordo, qui est enterré à plus de 90 mètres sous terre.
Oui, c'est pas au Irak. Hein.
Non, c'est pas du tout au Irak.
Et vous pensez pas que vous qui connaissez bien la frontière nord, parce que vous avez passé quelques temps là-bas, vous pensez pas qu'il peut y avoir
la frontière sud aussi.
C'est vrai. Mais enfin, c'était moins de vos bords de la frontière. Hein. Alors, vous pensez pas qu'il peut y avoir, en cas de non-signature, un mouvement, une manipulation du Hezbollah et des espaces d'Aran qui sont en Syrie, qui ferait une espèce de pression,
C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Quand on voit les têtes des compositions du Liban, et quand on voit comment la population sunnite est remontée contre le Hezbollah, si le Hezbollah prend l'initiative d'une offensive militaire d'envergure contre Israël, je pense qu'ils vont avoir contre eux à la fois le front sud et le front nord, et que tout le monde va leur tomber dessus. Donc je serai un stratège du Hezbollah, j'y réfléchirai à deux fois actuellement avant de lancer quelque initiative militaire que ce soit.
C'est vrai, ils sont sur une corde raide aussi.
Ils sont sur une corde raide.
Eh bien écoutez Marc, je vous remercie beaucoup, Marc Lefebvre, parce que vous nous avez éclairé. Et puis je comprends que vous avez une certaine confiance dans un accord que c'est...
C'est une confiance mesurée, tempérée, mais nous n'avons pas le choix.
D'accord, c'est la conclusion. Donc merci d'avoir participé à notre émission. Et puis d'avoir répondu à mes questions. Et puis à bientôt, j'espère, que vous nous éclairiez sur d'autres points.
À votre service toujours.
Bon, alors, bonne semaine à tous et à toutes. Bonne préparation des commémorations de Tichri. C'était Paul Ouzimi, Erson à l'antenne, avec Chronique pour la paix. À dans 15 jours.